Marinaro, Alex Lanto à la mise en onde. Nicolas Cloutier de TVA Sport, bonjour.
Tony, ça va bien?
Ben, ça va très, très bien. Je dois remercier Alex dès le moment que je suis arrivé à la station aujourd'hui. Il m'a dit, l'article de Nicolas, l'article de Nicolas, l'article de Nicolas. Il a dit, hey, mon chum Nicolas Cloutier a frappé fort encore un matin. Ben oui, il dit, ben oui. Nicolas, il y a tous les partisans des Canadiens qui regardent ça de loin, l'histoire de Demidov, que... à chaque fois qu'on voit des reprises, des montages, des faits saillants de lui, il est en train de faire quelque chose de spécial. Malheureusement, c'est limiter les choses spéciales qu'il peut faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de glace. Donc, parle-nous de son temps de glace dernièrement et tout le monde veut savoir pourquoi il ne joue pas.
Comme tu dis, pourquoi? Parce que Demidov, quand il a commencé à être cloué au banc par le SKA, c'est pas parce qu'il jouait mal, parce qu'il avait peu de temps quand il s'était fait clouer au banc. Il avait été nommé recrue du mois dans la KHL et il avait tout près d'un point par match. Alors, il n'y avait pas vraiment de raisonnement, il n'y avait pas vraiment d'explication et je te dirais que les explications de Roman Rothenberg étaient assez confuses. Moi, ce qu'une source près de l'entourage de Demidov me confiait hier au téléphone, c'est que à trois reprises, le SKA a essayé d'approcher Demidov pour une prolongation de contrat de 2 ans. Et les 3 fois, Demidov a dit non. Et Demidov allait dire non. C'était clair qu'il allait dire non. Ses intentions de jouer avec les Canadiens en Amérique du Nord en 2025-2026, ils sont connus depuis belle lurette, Tony. C'était pas un secret pour le SKA en amorçant la saison que Demidov, son intention, c'était de terminer son contrat en bonne et due forme et de rejoindre les Canadiens la saison suivante. Mais bon, on est un peu greedy du côté du SKA, mais regarde, je dirais avec raison, parce que Demidov, c'est un excellent joueur.
Mais oui, tout le monde veut garder les meilleurs joueurs.
Ouais, moi, je pense que, clairement, ce qu'on a essayé de faire, et ce qui devient de plus en plus clair, Tony, c'est qu'on a donné un peu de temps de jeu à Demidov au début de la saison. On l'a laissé s'exprimer, on l'a laissé s'amuser, on l'a laissé récolter des points pour lui donner le goût de la KHL, le goût de dominer en Russie dans son pays. Et après, on s'est dit, bon, offrons-lui une prolongation de contrat. Et sinon, ben, regarde, là, on va enclencher l'autre étape du plan. Et cette étape-là du plan, elle est très commune en Russie, ben, c'est le chantage. C'est le chantage, c'est tu veux pas signer avec nous, on va te perdre l'an prochain dans l'ANH, ben, tu joueras pas.
Quel crasseur! Mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. On te donne un bonbon. Tu veux signer avec nous? Non? OK. Cloué au banc. Jusqu'à le temps, le gars, il perd la tête. Il perd la tête. Cloué au banc, cloué au banc, cloué au banc. 3 minutes, 4 minutes. Puis à un moment donné, tu vas voir, hein, Nicolas, comme tu sais, ils vont revenir, puis ils vont dire, veux-tu signer pour nous?
Exact. Et Tony, on a quand même fait une belle offre à Demidov aussi. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est une offre de 40 millions de roubles annuellement d'une durée de 2 ans. Et les bonis, dans ces situations-là, en Russie, peuvent dépasser aussi le salaire annuel. Alors, ce serait, tu sais, je veux dire, 40 millions de roubles, pour vous donner une idée, c'est environ 560 000 $ canadiens. Mais le taux d'imposition au Canada est plus élevé. Alors, ce serait vraiment pas loin de ce qu'il ferait avec son contrat d'entrée dans la Ligue nationale à Montréal. Et encore là, il y a les bonus qui s'ajoutent à ça. Alors, il y aurait possibilité peut-être de faire même plus qu'il ferait sur son contrat d'entrée à Montréal, mais ça n'a jamais été une question d'argent pour Demidov, Tony. Je veux dire, ça n'a jamais été une question d'argent. C'est un gars qui sait qu'il a le talent pour jouer dans la LNH très bientôt et qui veut jouer dans la LNH le plus vite possible. Et ça faisait plaisir aux Canadiens quand ils ont discuté avec lui avant le repêchage. Et c'est pour ça que le Canadien, finalement, n'a jamais eu vraiment peur de le repêcher au 5e rang, parce qu'il n'a jamais été gêné de dire, Demidov, moi, je joue en Amérique du Nord le plus rapidement possible.
Oui, ça se peut que ce soit plus d'argent, parce qu'évidemment que le Canadien, les premiers 3 ans, ça va être moins d'1 million. Puis évidemment, il va être taxé, puis il va avoir moins de 500 000 US. Tandis que les 40 millions de rubles que tu viens de dire, à la fin, c'est 400 000 US, plus des bonus, plus ça, ça fait 500 000 US, sauf que lui, il va peut-être les recevoir dans une enveloppe. Et dans le temps, là, je ne sais pas maintenant, mais il y a quelques années de ça, il y a des joueurs qui m'ont dit, des ex-joueurs de la Ligue nationale, là, que quand ils jouaient dans KHL, là, hein, on leur donnait de l'argent.
Dans des enveloppes brunes?
Dans des enveloppes brunes.
Ben voyons donc.
Mais eux autres, écoute, on leur donnait avant la pratique. Mais il y en a qui cachaient leur argent, puis quand ils retournaient au vestiaire, l'argent n'était plus là. Hein? Donc, il y a des ex-joueurs de la Ligue nationale que quand on leur donnait de l'argent avant l'entraînement, ils prenaient de l'argent dans les enveloppes, puis ils tapaient dans leur jambière, tapaient tout ça, puis jouer avec tout ça, tout tapé de la pratique. Puis quand la pratique était finie, là, l'enveloppe, boum, il enlève les jambières, boum, l'enveloppe est là. Je pars puis je tourne à la maison. Parce qu'il y en a que l'argent, il n'était plus là après l'entraînement. Là.
C'est pourquoi je ris, Tony, parce que c'est même pas l'histoire la plus folle que j'aurais entendue à Provence de la KHL. Alors, je serais même pas en mesure de mettre en doute ce que tu es en train de dire. Aussi absurde que ça paraît, c'est crédible.
Mais tu sais qu'est-ce qu'il y a quelque chose avec cette histoire-là? C'est qu'il ne faut pas oublier que le père de Bobrov, le père de Nick Bobrov, le dépisteur en chef des Canadiens de Montréal, avec Martin Lapointe, son père, c'est un haut dirigeant au SCA. Mm-hmm. Je pense pas que le père veut faire de la peine au fils ou veut faire mal aux Canadiens, dont le père, peut-être, il regarde ça, puis c'est pas son call, il est en train de voir tout ce qui se passe, il est en train peut-être de communiquer avec son fils qui l'appelle, Demidov, le Canadien qui l'appelle pour dire « signe pas ». Lui, le jeune, il sait qu'il veut pas signer. « Inquiète-toi pas, signe pas. Si ça veut dire que tu joues pas, signe pas. » Puis le père de Bobrov qui regarde tout ça, hey, ça doit être incroyable, cette affaire-là. Ça
a une famille particulière entre les Bobrov, j'imagine. Mais tu sais, Tony, oui, Nick Bobrov, le père de Nick Bobrov a peut-être de l'influence au sein du SCA, mais c'est pas le père de Nick Bobrov qui colle les shots, c'est Roman Rothenberg.
Ben oui. Alors,
rien au final. Est-ce que le fait que le père de Nick Bobrov soit là, oui, c'est un avantage pour les Canadiens parce qu'il y a une ligne de communication directe entre les Bobrov. Puis je pense qu'au repêchage, c'est ça qui fait en sorte que, je veux dire, entre toi et moi, Tony, Demidov aurait dû être repêché normalement bien avant le cinquième rang. Mais ce qui avantageait le Canadien, c'est qu'il y avait tellement d'informations qui étaient rassurantes au sujet de Demidov, probablement à cause de cette ligne de communication-là directe qui était établie entre les Bobrov d'un côté et de l'autre. Ça a vraiment rassuré les Canadiens. Est-ce que les autres équipes ont pu être autant rassurées, ont pu amasser autant d'informations? Probablement pas. Donc, on s'est rabattu sur des valeurs qui étaient considérées comme étant plus sûres. T'sais, au même titre que, bon, probablement qu'on n'aimait pas, à tort ou à travers, on n'aimait pas autant les informations qu'on entendait du côté de Mishkov, mais on les aimait du côté de Demidov, alors on s'est lancé dans le dossier Demidov.
On va voir, là, mais le développement de Demidov, s'il joue pas beaucoup, il va être nuit à quel pourcentage, là? 20, 40, 60, 80, 100%. On sait que la pratique, c'est bien beau. Puis même là, tu pratiques beaucoup plus que tu joues, dont la pratique est vraiment importante, primordiale. Mais tu ne peux pas toujours étudier. À un moment donné, il faut prendre l'examen pour voir tout ce que tu as étudié, ça a donné quoi. Puis lui, malheureusement, s'il n'y a pas beaucoup de minutes, il ne prend pas souvent l'examen.
Moi, je veux dire une chose, Tony. Le développement, je serais surpris qu'il soit affecté de plus de 15 ou 20 %. Et je vais prendre le temps de t'expliquer pourquoi. C'est une situation que le clan Demidov, Le clan Demidov n'est pas surpris en ce moment. Il s'attendait à ça. Moi, quand j'avais parlé à l'agent de Demidov au début de la saison, qui est Dan Milstein, Milstein m'avait dit « Je veux aucun texto concernant Demidov tant qu'il joue en KHL. Je peux pas te parler de Demidov tant qu'il joue en KHL. »
Il m'a répondu la même chose. Hey, Nick, il m'a répondu la même chose.
Incroyable, pareil.
Ouais, il m'a répondu la même chose. Moi aussi, je l'avais contacté.
Déjà là, Tony, là, Dan Milstein, il savait que ça allait être compliqué avec Demidov dans la KHL. Il savait ce qui s'en est. Il savait que ça allait être Messi. Il savait qu'il allait avoir du mélodrame. Alors, le clan Demidov était préparé à ça. Et moi, ce qu'on me dit, c'est la même source à laquelle j'ai parlé hier, c'est que Demidov, il s'entraîne énormément dans ses temps libres en ce moment. Il s'entraîne même peut-être trop. Alors, c'est pas parce qu'il joue moins sur la patinoire que là, qu'il va lésiner sur les efforts à l'extérieur. Ça l'empêche pas de se développer pour autant. Et on a aussi, tu sais, je veux dire, Demidov aimerait ça aussi, peut-être jouer dans la VHL pour jouer peut-être 20 minutes par match, mais sais-tu quoi? Roman Rothenberg, là, il ressent la pression lui aussi. Il lit ce qui est écrit dans les médias. On le challenge aussi en Russie sur le fait que, bon, Demidov jouait tellement bien, mais si tu l'utilises pas avec le SCA, alors qu'il t'aidera à gagner. Ça, c'est un enjeu aussi. Roman Rothenberg, il ne peut même pas rétrograder Demidov dans la VHL parce que il y aurait trop de critiques. Demidov a été trop bon dans son temps de jeu limité pour qu'il puisse être rétrogradé. Même si Demidov serait pas opposé, même si Demidov voudrait jouer 20 minutes par match, le SCA peut même pas faire ça à cause de la façon que ça serait reçu par le public. Alors, est-ce que ça va affecter son développement? Écoute, tu vas déjà remarquer, Tony, que le dernier match, il a commencé à jouer un peu plus. Moi, je m'attends à ce que Rothenberg sente la pression et réalise à un moment donné que, bon, son chantage, ça fonctionnera pas et il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix d'utiliser Demidov parce que Tu sais, c'est pas juste une question de développement, Tony. Demidov, c'est un joueur qui peut t'aider tout de suite. Le score a un incitatif de l'utiliser. Demidov peut t'aider à gagner des matchs en ce moment. Et là, même si tu peux sortir l'excuse que, bon, t'es pas entièrement à l'aise avec son jeu défensif, moi, je pense que c'est de la foutaise, mais peu importe. Ben, tu peux quand même l'utiliser quand tu tires de l'arrière. Alors, non, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment à s'en faire. On va voir tranquillement Demidov gagner du terrain, reprendre un peu de temps de jeu. Roman Rothenberg n'aura pas le choix, il va avoir les mains liées, il n'aura pas le choix de l'utiliser.
Nicolas Cloutier, toujours fantastique, mon chum. On se parle bientôt. Merci beaucoup, hein?
Merci, Tony. Toujours un plaisir avec toi.
Nicolas Cloutier de TVA Sport.